Voilà. Donc maintenant, on va aborder un dossier un peu paradoxal, c'est le refus de licenciement par un patron. C'est-à-dire, j'ai envie de me faire licencier, il veut pas.
Ben oui, ça se passe pas trop bien, j'ai envie de partir parce que franchement, ça va plus du tout. Je lui dis, bah écoutez, le mieux, ce serait que vous me viriez parce que derrière, je voudrais faire autre chose. Et peut-être, je voudrais faire une autre formation, donc j'ai pas trop de thunes. Et ça serait bien que je puisse être aidé par les ACEDIC, par exemple, par le Pôle emploi, qui pourrait me trouver une formation, etc. Et le patron, il veut pas. Il a décidé de me faire chier. Si t'es pas contente, eh ben, tu te casses et tu te débrouilles. Alors, quelles sont les solutions? La première que je vois, mais qui n'est pas forcément la plus sympathique, la plus, qui va me couvrir le plus, c'est la démission.
Oui, tu perds tout, là.
Alors là, je perds tout. Oui. je décide de démissionner. Donc, je dois déjà savoir si je dois un préavis à mon employeur. Et si je dois un préavis, il faut que je l'effectue. Si je ne l'effectue pas, l'employeur peut demander des dommages et intérêts qui, en règle générale, sont calculés sur le montant que j'aurais perçu si j'avais fait mon préavis. C'est ce que demande l'employeur en général au prud'homme quand il y vient. C'est assez rare qu'il y vienne parce que pour un mois de salaire, il va pas s'emmerder à payer son avocat qui lui coûte cher. Parce que les avocats patronaux sont beaucoup plus chers que les avocats syndicalistes.
Les mêmes bourses.
oui, absolument. Je parle de vrais avocats syndicalistes. Je parle pas d'avocats qui se disent syndicalistes. Et donc, ils viennent rarement. Mais enfin, il faut quand même mettre ça dans la balance, savoir que si je m'en vais du jour au lendemain sans effectuer le préavis, alors qu'il y a un préavis de prévu dans la convention collective, ou bien maintenant par la loi de mémoire, il y a un préavis de démission, c'est ça, Patrick?
Ouais,
depuis la dernière, depuis 2008, de mémoire. Donc là, il faut quand même que je fasse attention à être dans les clous quand même.
Le préavis, c'est écrit sur son contrat de travail?
Non,
pas nécessairement.
C'est pas nécessaire, non.
Comment le savoir? Alors, la convention collective?
C'est ou le code du travail et la convention collective. Le contrat de travail écrit n'est pas encore obligatoire en France. Donc, tous les salariés n'ont pas forcément un contrat de travail lorsqu'ils sont en tout cas embauchés à temps plein et à durée indéterminée. Donc, c'est par référence ou au code du travail ou à la convention collective que le salarié peut savoir la durée de préavis dont il est débiteur à l'égard de l'employeur en cas de démission. Pour répondre à ta question, en fait, le salarié qui démissionne, c'est pas qu'il perd tout, c'est qu'il gagne rien.
Oui.
Ce qui est un petit peu différent.
Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai.
Donc, il perd le droit qu'il a potentiellement acquis à une indemnité de licenciement qui est fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Donc, c'est quelque part un droit acquis du fait de l'ancienneté dans la boîte. Accessoirement, il ne gagne pas un droit au paiement d'allocation de chômage, puisque la réglementation de l'UNEDIC prévoit que sont indemnisés les salariés qui ont été involontairement privés de leur emploi. C'est la règle générale qui détermine les conditions d'ouverture au paiement de l'allocation retour à l'emploi. Donc le salarié qui est démissionnaire, en principe, ne peut pas prétendre au paiement d'allocation retour à l'emploi. Avec deux exceptions quand même.
Les journalistes?
Ouais.
Alors, les journalistes, c'est cas atypique, mais le journaliste peut démissionner en cas de modification dans la structure de l'entreprise qui entraîne un changement de ligne éditoriale et une clause de conscience qui l'autorise à rompre son contrat.
Ils ont toujours la cause, mais ils n'ont plus trop la conscience, semble-t-il, en ce moment.
Alors, outre le cas particulier des journalistes, il y a deux principes généraux qui s'appliquent et qui résultent de la réglementation de l'UNEDIC. Seront indemnisés les salariés qui démissionnent poursuivre un conjoint ou un pacsé qui est lui-même muté en province, et donc lorsque le salarié démissionne d'une entreprise à Paris pour suivre son conjoint qui est muté à Perpignan, celui-là sera indemnisé par Pôle emploi, sous réserve de justifier de la réalité de ses conditions.
Mais pas s'il est quand même, une toute petite parenthèse, pas si le conjoint est muté à l'étranger, par exemple. Salarié muté en Chine, dans le cadre de son boulot pour l'automobile.
C'est
il
un grand
muté
bon
3 ans
lui,
à Chine. Oh, oui, c'était il l'appréciait que modérément, mais enfin en tout cas, il est muté en Chine. Sa femme démissionne donc de son boulot. Et elle était vendeuse, elle démissionne de son boulot pour suivre son mari, les ACEDIC ne prennent pas en charge, il faut être sur le territoire pour pouvoir tout percevoir les ACEDIC.
Ah mais c'est pas parce que le mari est muté en Chine, c'est parce que à raison de la mutation de son mari en Chine, elle-même part en Chine.
Voilà, c'est ça.
Et si elle est en Chine, elle ne peut pas être à la recherche d'un emploi. en France, qui est la deuxième condition nécessaire à la perception des besoins de chômage.
D'accord. Donc, première cause, PACS ou mariage, déménagement.
Deuxième hypothèse, on l'a déjà invoqué une émission précédente, c'est le salarié qui démissionne parce qu'il n'est pas payé de ses salaires par son employeur, et Pôle emploi l'indemnisera sous réserve qu'il puisse justifier une condamnation judiciaire de l'employeur au paiement de rappel de salaire, soit par une ordonnance de référé, soit par une décision de bureau de conciliation. Donc ce sont les deux hypothèses prévues par les accords UNEDIC d'indemnisation par le chômage, par Pôle emploi, des salariés démissionnaires.
Ok, donc on vient au cas général d'une démission, Catherine ?
Oui, alors donc j'en étais sur uniquement le préavis. Donc il y a un certain nombre de cas où il y a des cas où le préavis n'est pas obligatoire. La femme enceinte, par exemple, le salarié qui démissionne après le ou la salariée après un congé parental, il n'est pas obligé d'exécuter son préavis, par exemple. Donc il faut quand même regarder. C'est pas toujours obligatoire de faire son préavis, mais en général, on doit effectuer un préavis. Ça c'est la première chose. Il y a le problème de tous les CDD. Le CDD n'est pas... on peut pas, par exemple, démissionner quand on est en CDD, sauf exception, là aussi. On peut démissionner si on est en CDD, si on a trouvé un autre boulot en CDI, mais il faut en justifier.
Et si on doit faire le préavis quand même ?
On n'est pas... on n'est pas là non plus obligé de faire le préavis. Non, mais il n'y a pas de préavis en CDD. Ton CDD, oui. Tu dois le faire jusqu'à la... Si tu as un CDD d'un an, tu dois le faire un an.
Oui.
D'accord ? Si ton CDD se termine le 16 juin et qu'au mois d'avril, tu as trouvé un CDI, tu vas voir ton patron, tu dis, voilà, j'ai trouvé un CDI, donc je romps mon contrat. Et là, tu n'as pas besoin de faire de préavis, tu romps ton contrat. Je veux dire, c'est un des cas de rupture de contrat qui, normalement, n'est pas autorisé dans le cadre d'un CDD, mais à titre exceptionnel, qui est autorisé. De la même façon... Oui, pardon.
Je t'interromps parce
Je t'en prie.
Il y a un préavis de dû. Dans l'hypothèse du salarié en contrat à durée déterminée qui trouve un contrat à durée indéterminée, et ce préavis est d'un jour par semaine, calculé soit sur la durée totale du contrat, renouvellement inclus, soit sur la durée effectuée lorsque le CDD ne comporte pas de termes précis. Donc il y a même un préavis.
Oh, pardon.
Voilà. Donc il y a un petit bout de préavis dû. Voilà. Bon. Précision de détail, mais.
C'est dégueulasse.
Ouais. Rien d'avant. Bon, après, ça peut éventuellement se négocier avec l'employeur.
Des fois, ça peut s'arranger, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait un autre. Ah oui, pareil, un contrat d'apprentissage. Le salarié ne peut pas démissionner une fois passé le délai de 2 mois, pendant lequel les deux parties peuvent rompre le contrat sans problème. Enfin, sans problème, on rompt le contrat. Ensuite, on est obligé d'aller devant le juge. L'apprenti, il faut en parler aussi un peu parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font de l'apprentissage. Enfin, de plus en plus. On en revoit de plus en plus. Donc, dans le cadre de l'apprentissage, si l'employeur ne fait pas son boulot, le salarié, passé les 2 mois où il peut démissionner, est obligé de venir devant le juge pour demander que le juge constate les manquements de l'employeur et rompe le contrat.
Ah oui, c'est-à-dire que les jeunes en apprentissage peuvent pas rompre un contrat si simplement que ça.
Ni l'employeur, ni le salarié.
Ni l'un ni l'autre.
Le contrat de travail ne peut être, le contrat d'apprentissage, passé les 2 mois suivant sa conclusion, ne peut être rompu que soit d'un commun accord entre les deux parties, soit par une décision du Conseil des prud'hommes qui prononce la résiliation du contrat. Et cette rupture peut être prononcée à l'initiative du salarié ou de l'employeur, selon celui qui a des griefs à faire valoir contre l'autre.
Le problème que ça pose, que ce soit le juge, aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est la durée de la procédure. Parce que si le salarié, si l'apprenti, par exemple l'apprenti coiffeuse, on lui fait ramasser depuis 2, 3, 5 mois, on lui fait ramasser les cheveux, on lui fait faire le ménage, et elle fait rien d'autre, elle apprend rien. Donc elle continue à aller à l'école, mais dans le salon, elle apprend rien. Elle vient demander la résiliation de ce contrat d'apprentissage devant le juge. Mettons que ça dure 6 mois. Pendant 6 mois, elle va continuer son boulot de merde, et en même temps, elle pourra pas retrouver un autre employeur pour pouvoir passer son examen, et elle est à peu près sûre de rater son examen si elle a pas appris à faire de la technique ou à faire de la coupe, quoi. Donc ça pose un vrai problème. Le deuxième problème que ça pose, c'est aussi pour les salariés qui sont harcelés, soit sexuellement, soit moralement. Le temps de la procédure, il va falloir que ces salariés se fassent arrêter par leur médecin pour ne pas être, enfin pour pouvoir être retirés, quoi, de leur directement du contact de la personne qui les harcèle d'une manière ou d'une autre. Donc c'est compliqué. Enfin, l'apprentissage, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et de la même façon pour l'employeur, je vais pas défendre les patrons, mais l'apprenti qui ne viendrait plus, qui notamment est mineur, et là il y a des responsabilités de l'employeur. Il faut que l'apprenti sache où elle est, si elle est il ou elle est, si elle, il est pas à l'école, s'il est pas chez le patron, il y a un vrai souci là. Donc là, l'employeur peut rien faire non plus. Il est obligé d'attendre la décision du juge. Mmh, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que là, il y a un petit problème quand même. Il faudrait qu'il y ait des procédures plus rapides pour des cas, y compris d'autres cas d'ailleurs. Hein, on verra tout à l'heure dans la prise d'acte de la rupture éventuellement, des choses plus rapides pour les salariés qui sont en danger. Quoi.
Et on peut pas faire de référé par rapport à ces dangers-là ?
Alors le Code du travail ne prévoit pas, enfin c'est pas prévu du tout que les résiliations de contrats d'apprentissage se fassent devant le référé. Ça se fait devant le juge du fond, c'est le Code qui le dit.
D'accord. C'est le Code le dit, hein.
C'est même pas tant le Code, je crois, qu'il le dit. C'est la Cour de cassation qui l'a dit à plusieurs reprises. Et la raison d'être de l'incapacité théorique du juge des référés à prononcer une résiliation judiciaire du contrat, c'est que les décisions rendues en référé sont nécessairement provisionnelles, provisoires. Or, le fait de prononcer la rupture d'un contrat de travail est nécessairement une décision définitive. Mmh. Et donc le juge des référés, en principe, ne peut pas rompre un contrat de travail.
On pourrait suspendre le contrat de travail, à mon sens, sans aucun problème. Mmh. C'est-à-dire qu'on viendrait devant le juge référé en disant il y a un danger imminent pour la santé du salarié, on vous demande de suspendre le contrat. Mmh. Ça, je pense que c'est, enfin, à mon sens, c'est possible en référé.
Ouais. Mmh. Ça se plaide.
Oui.
D'autres choses sur la démission.
Sur la démission, je vois pas bien d'autres choses pour le moment. Par contre, avant de faire la petite coupure, un petit message personnel.
Oui, vas-y, c'est très important. En plus, on a appris que c'était un message qui risquait de déclencher la révolution
peut-être
sociale,
donc j'y vais tout de suite. Message personnel, Louise embrasse Fifi. Je répète,
Louise embrasse Fifi.
C'était il y a 10 ans qu'un tout petit ouvrier travaillait sans compter ses heures non payées dans une PME. Il se croyait chanceux de rembourser sa maison et celle du patron. Quelques années plus tard, sans même le concerter, l'entreprise est vendue à un groupe financier, patron à négocier, en vendant son affaire, une place de PDG, le reste en billets verts. Il restera 6 mois et se fera remplacer par quelqu'un dans le même cas, qui viendra ramasser le pognon, toi mon gars, tu te vois refuser, au nom de je ne sais quoi, ton salaire est gelé. Mais on dit que c'est ta faute, tu voulais 35 heures, ferme ta gueule ou tu sautes. On n'aime pas trop les chieurs, dans l'arène actionnaire, lui dit le matador, me paye pour te faire taire, exige ta mise à mort. Un jour est licencié, fatigué, écœuré, même plus syndiqué. Il a 45 ans, parle comme un retraité qui s'est battu 20 ans, qui a jamais rien gagné. Le patron opportuniste, boursicote à Wall Street, se dit même socialiste, dans un petit village suisse, député débutant, honnête et pas content, car il ne comprend rien de sa mise en examen. Et toi le petit ouvrier qui se plaindra tout le temps de ne pas pouvoir acheter ce que tu veux chez Auchan. Aujourd'hui y a des prêts, facilité de paiement, 150 fois sans frais à 55%. La 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 la.
Chanson au DRH, Olivier Trévidy, sur Radio Libertaire 89.4, dans les chroniques syndicales.
Donc, avec Patrick et Catherine, sur le refus de licenciement, comment faire pour se faire licencier? C'est quand même un comble, mais on va essayer d'y arriver. Et donc, on a évoqué la démission à l'instant. L'autre façon de faire, c'est la prise d'acte de rupture. Alors, ça, c'est quoi ce truc-là, la prise d'acte de rupture? Au Moyen-Âge,
ouais. Alors,
Prisac... Les juristes ont quand même quelquefois des terminologies un peu
bizarre,
médiévistes.
Alors, on va essayer de le faire français normal. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail, c'est l'acte par lequel un salarié provoque la rupture de son contrat de travail à raison de fautes qu'il reproche à son employeur. Et cette prise d'acte, dans ses fondements, se rapproche de l'autre mode de rupture qu'on évoquera tout à l'heure, qui est la résiliation judiciaire du contrat, puisque ces deux modes de rupture qui sont à l'initiative du salarié sont des ruptures dans lesquelles le salarié considère que l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, et à raison de ses fautes qu'il impute à son employeur, le salarié va rompre le contrat. La prise d'acte de la rupture se formalise en général par une lettre, mais elle peut être verbale. C'est le salarié qui, à un instant T, va écrire à son employeur un peu par du camp pour dire « Monsieur le patron, vous ne me payez pas mes salaires, vous me payez un salaire inférieur au minimum conventionnel, vous ne respectez pas telle ou telle obligation, donc je romps le contrat, mais je vous en impute la responsabilité juridique. » Effet de la rupture de la prise d'acte, elle rompt immédiatement le contrat de travail, de telle sorte que le salarié, en principe, n'a pas de préavis à exécuter. La difficulté étant que la prise d'acte peut avoir des effets différents, soit ceux d'une démission, soit ceux d'un licenciement sans cause, et c'est le juge judiciaire, donc le conseil des prud'hommes ou la cour d'appel, qui auront apprécié si les motifs pour lesquels le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail sont des griefs suffisamment sérieux pour justifier d'une rupture du contrat de travail, et à défaut, c'est une démission. Autre inconvénient non négligeable de la prise d'acte de la rupture, c'est que, a priori, Pôle emploi n'indemnisera pas le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aussi longtemps qu'une décision judiciaire n'aura pas dit, mais en région parisienne, ce sera entre 12 et 18 mois plus tard, que les raisons pour lesquelles le salarié a pris acte de la rupture est effectivement des griefs suffisamment grave, pas. Et donc, si le juge dit, en 18 mois, c'est un licenciement, Pôle emploi rétroactivement indemnisera le salarié, mais pendant ces 18 mois-là, que dalle. Donc, la prise d'acte est un mode de rupture qui a l'avantage de permettre au salarié de quitter immédiatement l'entreprise, mais qui a des conséquences pécuniaires délicates pour lui, puisque, a priori, sauf à ce qu'il ait déjà retrouvé un nouvel emploi ou qu'il ait la certitude d'en trouver un rapidement, il va se trouver privé de toute rémunération pendant la durée de la procédure qu'il devra engager par
exemple. Est-ce qu'il faut des motifs sérieux et puis faire le constat, parce que...
Ah ben oui.
Alors, il faut qu'il y ait des témoins, ou je sais pas, j'imagine.
Bah, alors, tout dépend de la nature du grief. Si le salarié prend acte de la rupture à raison du harcèlement moral dont il est l'objet, il est certain qu'il aura besoin de témoignages pour pouvoir justifier auprès du juge la réalité du harcèlement qu'il invoque. Avec la pression la plus formelle qu'autre chose, que la prise d'acte en tant que telle n'est pas nécessairement un acte motivé. Autant le Code du travail prévoit que la lettre de licenciement, donc lorsque l'employeur prend lui l'initiative de la rupture du contrat de travail, doit être motivée, et il est jugé que, en cas de contestation du licenciement, ce sont les seuls griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui peuvent être la cause juridique de la rupture, et pas d'autres motifs, quand bien même serait-il établi. À l'inverse, ou au contraire plutôt, lorsque le salarié prend acte de la rupture, il n'est pas obligé de motiver sa lettre de prise d'acte de la rupture, et il peut, le cas échéant, rapporter d'autres éléments que les griefs invoqués dans la lettre de prise d'acte pour justifier sa décision. Par souci d'efficacité judiciaire, il faut quand même conseiller aux copains qui vont prendre acte de la rupture de faire une lettre suffisamment motivée, parce que s'ils invoquent un grief un peu ridicule et que dans le cadre de la procédure, ils viennent invoquer d'autres motifs eux pertinents, le juge les entendra moins bien que s'il a pris la peine dans sa lettre de prise d'acte de dire « Vous m'avez pas payé ceci, vous me devez cela, et donc je prends acte. » Mais il a été jugé qu'une prise d'acte peut être verbale, elle peut même, le cas échéant, se déduire...
Verbale devant témoin ou entre quatre yeux? Les trois yeux du salarié et l'œil du cyclope.
Ça peut être entre les quatre yeux dont tu parles, ça peut être... ça peut même résulter de circonstances particulières. Il y a un arrêt de la Cour de cassation, je crois, qui a considéré que s'agissant d'un salarié qui a eu un long arrêt maladie, qui à un instant T arrête d'envoyer à son employeur des avis d'arrêt de travail, qui ne reprend pas son poste et qui saisit concomitamment le Conseil des prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités usuelles de rupture de son contrat de travail, la Cour de cassation a considéré que cette saisine du Conseil des prud'hommes pouvait s'analyser comme étant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Donc, Il y a une liberté formelle d'exercice du droit à la rupture du contrat de travail par le salarié qui est très grande. Juste d'un point de vue pratique, il est quand même préférable de le faire dans des formes relativement conventionnelles, avec une lettre motivée, recommandée, pour pouvoir justifier auprès du juge et des autres organismes sociaux des motifs pour lesquels le salarié prend de la rupture.
Par rapport à la démission, je vais faire un parallèle avec la prise d'acte, parce qu'effectivement, la démission, elle est un peu plus formalisée dans le sens où il faut que la démission, elle soit non équivoque, qu'elle résulte vraiment de la volonté seule du salarié. C'est-à-dire qu'une démission qui aurait été donnée sous la contrainte, elle serait pas bonne. Et dans la lettre de démission du salarié, là, il y a besoin d'une lettre, effectivement. Dans la lettre de démission, il suffit simplement on peut aussi noter dans la lettre de démission les motifs pour lesquels on démissionne. Par exemple, et on pourra faire requalifier ensuite devant le juge,
la démission en
licenciement. Oui, par exemple, je démissionne parce que je suis harcelé. Je démissionne parce que vous ne me payez pas les salaires. Je démissionne parce que ça fait 20 fois que je vous demande ça et que vous respectez toujours pas mes droits. Et j'en peux plus, je m'en vais. Mais ça, après, on peut le faire requalifier aussi en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le juge.
La démission ainsi formulée sera requalifiée en prise d'acte. Et ensuite, le juge qualifiera cette prise d'acte. Enfin, dira que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause.
Ouais, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle.
Non, mais t'as raison. Oui. C'est plus important.
Souvent, j'ai raison.
D'autres choses sur la prise d'acte, alors?
D'autres choses sur la prise d'acte.
Ou on passe à la résiliation judiciaire.
Si. Autre chose sur la prise d'acte, toujours sur les problèmes de procédure. La prise d'acte peut être une idée astucieuse de la part du salarié, et je pense à une hypothèse ou à un type de situation que j'ai eu à traiter à plusieurs reprises. Un salarié sait, pour des raisons X ou Y, que son employeur envisage de le licencier pour des motifs qui sont a priori effectivement des motifs réels et sérieux. Donc le salarié sait que le coup près va tomber. Le salarié a lui-même des griefs à faire valoir contre son employeur. Et si le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour un motif pertinent, avant d'avoir effectivement reçu la lettre de notification de son licenciement, le juge qui sera saisi du litige devra d'abord se poser la question de savoir si la prise d'acte était-elle causée par un motif pertinent. Et si le juge considère que cette prise d'acte était effectivement causée par un motif pertinent, il considérera que c'est la prise d'acte qui est la cause de la rupture du contrat de travail, et il analysera cette rupture en un licenciement sans cause, sans avoir examiné les motifs du licenciement lui-même.
Donc en gros, on tire en cause après.
On tire en cause après, et ça permet d'enchaîner d'ailleurs sur l'autre mode de rupture à l'initiative du salarié qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la demande de résiliation judiciaire. La demande de résiliation judiciaire est une procédure prud'homale. Le salarié va saisir le juge du contrat de travail d'une demande de rupture de son contrat de travail, un peu comme dans l'hypothèse de la prise d'acte, en disant au juge, mon patron ne me paye pas telle ou telle indemnité conventionnelle, ne respecte pas mes droits à congés payés, me harcèle, peu importe le motif, et va demander au juge de prononcer la rupture de ce contrat de travail. L'intérêt pratique pour le salarié d'engager une procédure prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat plutôt que de prendre acte, c'est que pendant toute la durée de la procédure prud'homale, le contrat de travail se poursuit. Donc le salarié garde son salaire et son emploi. Et si le juge ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat, considérant que les griefs du salarié ne sont pas suffisamment sérieux, le contrat se poursuivra encore. Donc le salarié a, sauf cas d'urgence, intérêt, à mon avis, à se placer sur le terrain de la demande de résiliation judiciaire du contrat plutôt que de prendre acte. Sachant que le salarié qui a engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat, pendant la durée de la procédure prud'homale, peut prendre acte de la rupture. Et s'il est licencié entre la demande de résiliation judiciaire et la date de licenciement, un peu comme on se racontait tout à l'heure, c'est le juge examinera d'abord la demande de résiliation judiciaire, et s'il fait droit à cette demande de résiliation judiciaire, il dira qu'elle prend effet à la date à laquelle le licenciement a été notifié pendant la durée de la procédure prud'homale.
Ils disent que ça sent mauvais autour de mon usine. Je conteste. Je dis non. L'expert n'a rien senti, lui. Alors ils ont dit qu'il avait de la sinusite. Oh, quelle mauvaise foi. Ça n'a pas de nom. Ah, je les retiens, mes voisins. Quand je pense à leur sachem, où il y a toujours quelqu'un qui a un chou-fleur à faire cuire. Non, ils veulent m'emmerder, c'est tout. Ces gens-là sont tous les mêmes. J'ai réussi. Alors ils peuvent pas me sentir, c'est tout. Ils peuvent pas me sentir. Tenez, j'habite avenue Mozart, premier étage, au-dessus d'un fleuriste. Il y a des jours où ça sent très fort, le mimosa. Est-ce que j'en fais un plat, moi? Est-ce que j'envoie des pétitions au ministre? Mais non, je prends la voiture, je vais faire un tour au bois. La semaine dernière, pour faire un test, j'y suis allé à l'usine. Je suis resté devant la porte un bon quart d'heure. Aucun malaise, peut-être un léger mal de tête, mais quoi, avec deux aspirines, puis en voilà, en douceur. Mais rien n'arrête la calomnie. Du coup, mes ouvriers décrètent qu'ils ne veulent plus mettre leurs masques à gaz. Que ça les complexe d'avoir tous la même tête. Que ça les déprime, que ça les déphase. Qu'il n'y a plus d'oiseaux, plus de mouches à 3 km à la ronde. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de mouches pour travailler? On veut des mouches maintenant. Et pourquoi pour des chaises longues? Et des rafraîchissements, des attractions pendant qu'on y est. Que je me reconvertisse, au fond, voilà. Voilà leur thèse. Alors que mon produit est de première nécessité. Sans lui, fini la bonne, la scène, la franche gueule française. Oh, mais ça va, j'ai compris. Ils sont payés par l'étranger. Mais je ne céderai pas. Je tiendrai bon dans la tourmente. J'appellerai la police, l'armée, la marine, l'aviation, les pompiers, le contre-espionnage. Et sous leur protection, je les fabriquerai. Mes boules puantes.
Jacques de Broncard, la complainte du PDG. Sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez les chroniques syndicales.
Voilà, donc toujours avec Patrick et Catherine sur le refus de licenciement par l'employeur. Et je crois qu'il y a une précision à apporter, puisque tu as confondu un certain nombre de...
J'ai dit une grosse bêtise.
Je restais poli, moi.
Ça, mais t'es très délicat, j'apprécie. C'est pour ça qu'on revient. Mais j'ai dû dire, en rêvant... Que,
t'es pas là pour rêver quand même, ouais, je suis gentil. Mais...
Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture, ça permettait de prévenir le licenciement. C'est un peu stupide. Cette explication est pertinente pour la demande de résiliation judiciaire, mais lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, et il peut le faire jusqu'à la veille de la date de réception d'une lettre de licenciement, donc y compris après un entretien préalable à un éventuel licenciement, la prise d'acte de la rupture entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, de telle sorte que le juge qui sera saisi du contentieux n'aura qu'à apprécier que la prise d'acte qui est la cause de la rupture, et le licenciement qui serait éventuellement notifié après une prise d'acte n'a aucun effet juridique puisque le contrat est déjà rompu par la prise d'acte. Donc l'astuce par contre pertinente pour prévenir les motifs d'un licenciement qu'on sait susceptibles d'être causés par des motifs réels et sérieux, c'est saisir le conseil des prud'hommes avant la date de notification du licenciement, donc, d'une demande coup, de résiliation judiciaire. Et donc, pour répondre à la question que tu posais pendant la pause, la demande de résiliation judiciaire est une procédure prud'homale comme les autres, donc pas de formalisme particulier, il suffit de se présenter au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent pour connaître le litige, de déclarer au greffier qu'on veut faire une demande de résiliation judiciaire ou de compléter un formulaire préimprimé à cet effet. Et ensuite, c'est le greffe qui va convoquer les parties, d'abord une audience de bureau de conciliation, puis une audience de bureau de jugement. Donc, procédure classique.
Toute petite précision, il y a sur les demandes faites au prud'homme, il n'y a absolument pas la résiliation, il faut le mettre de sa propre main, quoi. Il y a un certain nombre de choses sur les formulaires qu'on demande depuis longtemps en tant que conseiller prud'homme à ce qu'il soit rajouté, parce que le salarié qui vient tout seul, il peut pas savoir comment s'appellent les choses, et des fois il remplit un peu n'importe comment, et comme le patron est convoqué sur ce qu'on a demandé, ensuite si le patron vient pas, le salarié peut pas changer ses chefs de demande, il faut reconvoquer, donc ça rallonge la procédure, et c'est vrai que résiliation judiciaire et un certain nombre d'autres motifs, c'est absolument pas marqué. Donc je conseillerais aux camarades qui ont des soucis, soit de se mettre en contact avec un ou deux avocats militants qu'on connaît, ou alors d'aller dans les bourses du travail pour qu'on les aide à remplir les formulaires.
D'autres choses là sur cette résiliation, sur
ça répond indirectement à ce que disait Catherine. L'exemple de jurisprudence que je citais tout à l'heure sur une prise d'acte, savoir que des juges ont considéré que le fait pour un salarié de saisir un conseil des prud'hommes alors qu'il est en cours d'exécution de son contrat, d'une demande donc de paiement des indemnités de rupture, la Cour de cassation a considéré que ça pouvait s'analyser en étant une prise d'acte. Le salarié mal conseillé ou pas conseillé ou méconnaissant ses droits, qui déposerait au conseil des prud'hommes en cours d'exécution de son contrat une demande en paiement de rappel de salaire conventionnel par exemple, et d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, pourrait à mon sens sans trop de difficultés faire juger que sa saisine vaut demande de résiliation judiciaire du contrat, même s'il l'a pas rajouté formellement. Mmh. Alors, c'est plus un problème de respect, de contradictoire et, qui peut se poser, mais...
Et puis après, il faut qu'il arrive à le, à l'expliquer à la barre, quoi. Exactement. C'est pas facile quand on est tout seul de, d'arriver à jouer avec, jouer entre guillemets avec les termes, jouer avec le droit quand on n'y connaît rien. Mmh. Et c'est pas un reproche, hein. C'est comme ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux se faire aider, quitte à apprendre soi-même et puis ensuite à les défendre, mais pas venir, les bras ballants.
Comme une loi blanche, quoi. Pas faire loi blanche devant le juge tout en noir.
Pourquoi la loi est toujours blanche?
Mais non, il y en a qui sont pas blanches. Les bernaches sont grises.
Eh ben voilà, mais pourquoi tu dis
blanches? Parce que je parlais pas des bernaches.
Ah bon, d'accord. Bon.
Voilà. Cela dit,
oui.
Y a-t-il beaucoup de cas de gens que vous avez pu traiter qui sont dans une demande de résiliation judiciaire ou dans une prise d'acte? Parce que les licenciements sont massifs de la part des employeurs. Est-ce qu'il y a de nombreux salariés qui disent « il y en a marre, je prends acte de la rupture » ou « je tente de faire résilier ça par les prud'hommes »
Il y a peu de salariés, en tout cas. Enfin, moi, en tant que conseiller prud'homme depuis 82, j'en ai pas vu beaucoup par rapport au licenciement, c'est clair. Mais ça vient sûrement du fait que le salarié... Il a conscience quand même que la prise d'acte, comme la demande de résiliation, ça va durer. Ça va durer. Alors la demande de résiliation, Patrick a raison. On continue à être dans l'entreprise. Alors il y a des moments où c'est possible. Enfin il y a des situations où c'est possible. Mais si c'est un défaut de, enfin si c'est un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, un défaut par rapport à la santé du salarié, c'est compliqué de faire une demande de résiliation qui va durer peut-être 18 mois, d'être toujours dans la boîte, alors que c'est pas possible de travailler réellement. Il va falloir trouver un médecin. Enfin il va falloir que le médecin arrête la personne, etc. Ça, c'est compliqué pour le salarié. Et pour la prise d'acte, il touche pas la CEDIC, quoi. Bouffer pendant 18 mois.
Et il y a une autre difficulté liée à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est que le salaire reste dans l'entreprise. Donc, ça suppose aussi d'avoir suffisamment de force, une personnalité suffisamment forte pour être capable de retourner bosser chez son patron tous les jours, sachant que le patron sait qu'une procédure est en cours, qui est susceptible d'aboutir à une rupture du contrat de travail avec à sa charge des années de rupture et dommage d'intérêt pour licenciement abusif.
Il est probable qu'il ne va pas te faciliter la vie, quoi.
Ça rend pas la vie quotidienne très très simple, et d'expérience, ça provoque assez souvent des négociations. Mmh. Alors, ou le patron pète un câble et vire le mec le lendemain, et quelque part, il a l'effet escompté, puis tant mieux pour le salarié, ou l'employeur va essayer de négocier. Alors, licencier, transiger, trouver une solution amiable. Alors, autant Catherine, de son point de vue conseiller prud'homme, voit relativement peu de contentieux, demande de résiliation, moi, dans ma pratique, j'en vois pas mal. Alors, est-ce que les gens savent que je m'en mets beaucoup et que j'aime beaucoup en penser à ça? J'en sais rien. Mais j'en vois souvent, c'est-à-dire que quand je reçois des salariés qui m'expliquent qu'ils sont en poste et confrontés à des difficultés de paiement de salaire, de conditions de travail, de respect des règles d'hygiène et de sécurité, etc., la solution que je leur propose, et d'envisager une action de résiliation judiciaire du contrat, ce qui leur permet de rester en poste, sous réserve que les conditions de travail soient supportables, tout en pouvant aboutir à une rupture du contrat de travail dans des conditions où ils seront indemnisés dans des conditions identiques à celles d'un licenciement sans cause.
T'as raison, on envoie, enfin, toi dans ta pratique, moi dans ma pratique de militante syndicale, effectivement, dans la boîte, des gens qui sont maltraités, donc en caisse d'épargne, mais c'est pareil dans toutes les banques, je suppose, avec un acharnement pour faire vendre à tout prix n'importe quoi, n'importe comment. Les salariés, la pression commerciale qui est exercée sur les salariés est insupportable, et beaucoup viennent, téléphonent en disant comment on fait pour se casser, quoi. Le problème de la résolution judiciaire, c'est qu'en attendant, ils se retrouvent sans rien. Donc c'est vrai qu'on avait...
Il y a quoi, les mots au placard ?
Non, ils se retrouvent sans... Ils demandent une résolution judiciaire du contrat de travail. Donc ça va au niveau de la boîte. La plupart du temps, ça devient difficile pour eux. D'autant plus que la demande de résolution judiciaire, il faut quand même qu'elle soit étayée par des éléments factuels, enfin des éléments de preuve. Or, la preuve d'un harcèlement moral, par exemple, dans une agence, il faudrait que les collègues témoignent. Le problème, c'est que les collègues, ils témoignent pas forcément. Et même jusqu'à présent, j'ai beaucoup de mal à trouver des témoignages. Parce que chacun a peur pour sa propre tronche. Et puis se dit, aujourd'hui, c'est elle qui se fait peut-être un peu harceler. Mais demain, si je le soutiens, c'est moi qui vais en prendre plein la tronche. Donc, il y a un phénomène difficile. Je critique pas les salariés qui ne témoignent pas. Je critique, par contre, ceux qui témoignent pour le patron. Parce qu'on en voit de plus en plus. Et ça, c'est insupportable. On a l'impression de se retrouver en 42 sous Pétain. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour nous, militants, de leur dire va jusqu'au bout, on va faire la résolution, on va demander une résolution judiciaire.
Résiliation.
Si on n'a pas la preuve tout de suite, là, enfin, si on n'a pas les preuves en main pour, devant le juge, dire, c'est justifié la demande de résiliation judiciaire. Donc, aujourd'hui, les salariés sont plus en demande de rupture conventionnelle.
Alors, j'ai vu qu'il y en a eu, en 2008, j'ai vu les chiffres très récemment, 445 000, je crois. Ouais. Donc, ça devient quand même un phénomène de masse.
Ça devient un phénomène de masse.
Donc, c'est la quatrième modalité.
Alors, c'est pas vraiment une quatrième modalité parce que, les trois premières qu'on a évoquées sont des ruptures à l'initiative du salarié. Alors que la rupture conventionnelle est en principe la rupture qui intervient d'un commun accord entre les parties. On a déjà fait une émission sur la rupture conventionnelle. Pour moi, c'est une fiction. Je vois mal comment à un instant T, et l'employeur et le salarié peuvent avoir envie de rompre le contrat de travail d'un commun accord. L'intérêt pratique, faut pas se leurrer, de la rupture conventionnelle, c'est qu'elle permet à des salariés qui ont des employeurs pas trop cons de démissionner parce qu'ils veulent partir de l'entreprise tout en percevant l'indemnité de licenciement qui leur serait due conventionnellement et ils ont un droit au paiement de l'allocation de chômage à la sortie. Donc c'est vrai que c'est un mode de rupture qui est, lorsqu'il est à l'initiative du salarié, un mode de rupture qui n'est peut-être pas critiquable et qui évite de faire des habillages qu'on pratiquait autrefois. Là où la rupture conventionnelle est par contre éminemment critiquable, c'est qu'elle est très souvent aussi à l'initiative de l'employeur, et l'employeur a des moyens de pression sur des salaires pour les contraindre à accepter une rupture conventionnelle, et lorsque la rupture conventionnelle est acquise, et même si le recours au conseil des prud'hommes est possible, théoriquement, la rupture ne peut pas être contestée. Ni ses motifs. Le seul motif qui permettrait à un salarié de contester une rupture conventionnelle serait démontrer au juge que sa volonté de conclure l'acte de rupture n'était pas libre. Un principe général du libre consentement au contrat, enfin, qui demande qu'il y ait de la violence, donc qu'il y ait la photo du patron avec sa Kalachnikov sur la tête, tu signes la rupture. En général, les patrons ont planqué la Kalachnikov avant de faire signer, donc on n'aura pas la photo. Donc c'est quasiment incontestable. Et on m'a rapporté plusieurs histoires qui sont sûrement authentiques, de salariés auxquels le patron dit « Monsieur, si tu signes pas, c'est faute grave. » Et ça nous renvoie à l'émission des Petites Perles, il y a deux mois environ. Beaucoup de personnes croient encore aujourd'hui qu'un salarié licencié pour faute grave n'aurait pas le droit aux allocations de chômage. Et donc le salarié se dit « Merde, c'est ou la faute grave, pas d'alloc de chômage, ou une rupture conventionnelle, je prends 3 francs 6 sous. » Et il signe. Et une fois qu'il a signé, c'est fini. Voilà. Sauf le délai de 15 jours de rétractation dont il bénéficie.
Ok. D'autres choses sur la façon de se faire licencier contre le gré de son employeur ?
Puis venir bosser.
Deux observations. Ah oui. Une d'abord pratique quand même. Je reviens à retardement sur la prise d'acte de la rupture. La règle, c'est que la prise d'acte de la rupture entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Et il a été jugé, dans certaines espèces, que les motifs invoqués par le salarié n'étant pas suffisamment graves pour juger la prise d'acte, cette prise d'acte a produit les effets d'une démission. Et on a vu donc des employeurs obtenir la condamnation du salarié qui avait pris acte pour des motifs futiles à payer des dommages et intérêts à raison du fait qu'ils n'ont pas exécuté le préavis de démissionnaire qu'ils auraient dû faire. Il faut savoir qu'en l'état de la jurisprudence, le salarié qui prend acte de la rupture peut proposer d'exécuter son préavis. Et sauf des hypothèses où il y a un danger imminent pour le salarié qui va vraiment quitter d'urgence l'entreprise, c'est ce que je préconise aux salariés qui prennent acte, c'est qu'ils prennent acte de la rupture, et en substance, ils disent à l'employeur, je vous tiens pour responsable de la rupture, vous me devez donc un préavis, puisque je considère que vous me licenciez, et donc je suis à votre disposition.
On reverse, là.
Et je suis donc à votre disposition pour exécuter le préavis que vous me devez, aux conditions que vous m'avez indiquées. Et ça peut prévenir une condamnation ultérieure du salarié à payer le préavis. Voilà. C'est une astuce de pratique, mais à connaître.
Voilà. Une deuxième remarque, non ?
Oui, tu avais dit deux.
Oui, deux, c'est pour répondre à ce que tu disais. Comment provoquer la rupture ? Ne plus venir bosser. Alors, effectivement, ça, on l'a fait souvent, ce coup-là. Et c'est pas miraculeux. Ça marche pas à tous les coups.
Non, ça marche pas à tous les coups.
Parce que le salarié, pour x ou y raison, veut quitter l'entreprise, ne veut pas démissionner.
Ne connaît pas les astuces juridiques. Parce qu'il n'écoute pas Radio Libertaire.
Absolument.
C'est un grand tort. Et donc, se dit, on va voir son patron, écoute Raoul, j'en ai plein le cul, tu me licencies. Ah non, je te licencie pas, tu dis bien, t'es pas content. Réflexe du salarié, il dit, il va me licencier, je ne viens plus bosser, donc il va me licencier. Et c'est faux. L'employeur n'a pas d'obligation de sanctionner le salarié qui n'exécute pas ses obligations contractuelles. Et donc, il y a des espèces où le salarié s'imagine, espère qu'il va être licencié, arrête de venir travailler. Et l'employeur n'étant pas tenu de sanctionner cette absence du salarié, le salarié n'est plus payé puisqu'il travaille plus. Mmh. Son contrat n'est pas rompu.
Il peut pas retrouver un autre boulot.
Donc, il peut en principe pas aller bosser ailleurs. En tout cas, il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi comme demandeur d'emploi puisqu'il a un contrat de travail en cours. Mmh. Donc, l'idée que tu avais, qui marche dans certains cas, de dire je vais plus bosser, je serai licencié, c'est pas la solution miracle.
Non, mais c'est une plaisanterie.
De toute façon, il n'y a pas de miracle en matière de droit social.
À part les mettre dehors.
Voilà. Bon, merci pour tout ça. On va soit résilier, soit prendre acte, soit faire d'autres choses. Quand même, peut-être, Patrick, rappeler le rendez-vous du 9 mars pour People and Baby.
9 mars prochain, midi, devant le siège social de la cité People and Baby, Merguez Party, en solidarité avec les camarades en lutte de cette entreprise depuis maintenant près d'un an.
Voilà, avec la bonne nouvelle que la déléguée du représentante de la section a pas été licenciée.
L'autorisation de licenciement de la RSS a été rejetée par le ministre du Travail.
Voilà, dit en termes corrects. Merci à vous, à bientôt.
À bientôt, ciao.